Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h42, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe LR au Sénat.
Oui, bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Patrick Roger.
On avance vers les fêtes de fin d'année. Qu'attendez-vous comme annonce d'Emmanuel Macron sur le déconfinement ?
J'attends deux choses. J'attends de la clarté, c'est-à-dire que j'attends une perspective, parce qu'aujourd'hui les Français souffrent psychologiquement parce que nous n'avons pas de perspective. On ne sait rien, il y a une cacophonie d'ailleurs souvent dans les ministres qui se contredisent. Et puis j'attends du bon sens. Les Français ne comprennent rien du tout aux règles bureaucratiques que le gouvernement a édicté. Comment voulez-vous qu'ils comprennent qu'on puisse être autorisé à acheter une bouteille de vin chez un caviste et non pas un livre chez un libraire? C'est incompréhensible.
Oui. Mais vous comprenez quand même la prudence aussi de Jean Castex entre les avis médicaux qu'il peut avoir et puis la première sortie du déconfinement qui n'a pas été la meilleure des réussites, visiblement. Quand même,
non, mais
quoi.
Qu'il ait loupé le confinement, le déconfinement,
le
c'est
déconfinement.
Une certitude désormais. Oui. Et on le paie par un nouveau confinement. Mais il n'est pas obligé de faire payer de ses erreurs l'ensemble des Français. Je m'explique. Je pense qu'aucune étude épidémiologique n'a montré que les commerces de proximité, c'était des foyers de contagion, de contamination. On le sait bien, il y a même une étude américaine très sérieuse de l'université de Stanford qui est parue dans Nature, qui dit l'inverse, parce qu'on peut contrôler les choses. Dans un petit commerce de proximité, vous n'avez pas des foules qui attendent à la caisse. Donc, on a tout interdit et du coup, on se retrouve dans
Oui, mais il y a aussi les galeries marchandes où il y a tous les commerces. Aujourd'hui, en fait, le petit commerce, il n'est pas qu'en cœur de ville. Il est dans les galeries marchandes où là, il y a beaucoup de
bien
monde
sûr,
et il peut y avoir des clusters. Là,
c'est
en fait,
la raison pour laquelle je pense que dès les prochains jours, le gouvernement devrait donner une perspective, notamment au commerce, en disant, écoutez, vous allez, à partir du 27 novembre, pouvoir ouvrir à deux conditions. Moi, je l'ai proposé. La première condition, avec un protocole renforcé, par exemple, en vérifiant qu'au nombre de mètres carrés, par exemple, 6 ou 7 mètres carrés, il y ait une personne. Les autres, comme lorsque je vais à la boulangerie pour acheter ma baguette, bah, écoutez, souvent, j'attends à l'extérieur. Très bien, ok. Et puis, ensuite, en donnant la main aux préfets. Les préfets, c'est-à-dire en territorialisant. Il ne faut plus que ça soit de Paris qu'on gouverne complètement la France, parce que les préfets savent bien que, effectivement, dans des galeries marchandes, là, du coup, on peut avoir un entassement. Ouais. Là, ça peut être dangereux. Mais franchement, dans des commerces de proximité, dans nos villages, dans nos villes moyennes, même dans des grandes villes, lorsqu'ils sont isolés dans une rue, mais où est le problème? Où est le problème? Et c'est grave, parce que quand les Français ne trouvent pas en face d'eux des règles de bon sens, la confiance s'effrite. Et vous n'obtenez pas leur plein consentement, leur pleine coopération pour lutter contre le virus.
Bruno Retailleau, qu'est-ce que vous pensez de la demande de Bruno Le Maire de décaler le Black Friday de quelques jours ?
Mais tout ça, c'est de la foutaise.
Ouais.
C'est
le rôle du gouvernement de demander ça.
Mais il n'en a aucun pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est dans l'absurdistan. Ouais. L'absurdistan, c'est ce royaume autonome de France des technocrates. Voilà. Jamais les Français n'avaient entendu une telle pub d'ailleurs pour le Black Friday. Mais Bruno Le Maire, pas plus qu'aucun autre membre du gouvernement, n'a pas la possibilité, le pouvoir d'annuler.
Il peut faire pression peut-être sur les distributeurs.
Mais c'est parce qu'ils ont fait cette erreur avec les commerces de proximité qu'ils sont en train d'essayer de se mélanger.
Donc ils devraient ouvrir le 27 alors.
Et bien sûr. Ouais. Et en réalité, c'est une nouvelle trouvaille pour nous emmener sur des fausses pistes, c'est tout. Mais voilà, c'est exactement comme les sapins. Ouais. Moi, je connais très bien le président national de la Fédération justement des artisans français. Ils vont avoir l'autorisation, vous savez, les fleuristes, de vendre des sapins coupés de Noël à l'extérieur. Ouais. Mais ils ne vont pas avoir l'autorisation de vendre des fleurs coupées. Ça veut dire que le gouvernement pense que le sapin de Noël est peut-être moins contagieux que la fleur coupée.
Vous avez signé la pétition, vous, Stop Amazon ou pas, non ?
Non, je n'ai pas signé.
Et alors, vous êtes contre Amazon ou pas ?
Je ne suis pas contre Amazon, moi je veux des règles claires.
Ouais.
Attention, le Black Friday, c'est quoi aussi ? C'est un chiffre d'affaires à peu près de 6 milliards.
Ouais.
Mais vous savez que le e-commerce sur les 6 milliards représente seulement 1 milliard. Mmh. Le reste, c'est du commerce, si j'ose dire, physique, traditionnel.
Ouais.
Donc on est en train de tuer des petites entreprises françaises. Et quand le gouvernement dit, il n'y a pas de problème, on va payer, bien sûr, parce que le gouvernement aujourd'hui, c'est le chèque, c'est le quoi qu'il en coûte. Et d'ailleurs, ça sera l'argent des Français. Et un jour, cette dette, il faudra bien la rembourser.
Ouais,
voilà. Donc le gouvernement paye, très bien. Il n'a que cette seule réponse. Mais les commerçants, les indépendants, eux, ils veulent vivre des fruits de leur travail. Ils ne veulent pas de subventions.
Oui, Bruno Retailleau, il y a un sondage IFOP fiducial ce matin. 85% des Français craignent une explosion sociale dans les prochains mois. Comment l'éviter ?
Mais on l'évitera précisément en redonnant de la confiance. Pourquoi la confiance a été effritée ? Elle a été effritée d'abord parce que pendant le premier confinement, il y a eu le mensonge sur les masques.
Oui.
Et ça, ça a abîmé la parole publique. Et puis ensuite, il y a ce manque de bon sens, précisément. Et quand vous n'avez pas des règles...
On ne peut pas gouverner qu'avec du bon sens. Si, il faut du bon sens et autre chose.
Mais si. Quand je dis l'absurdistan, ce n'est pas de moi, c'est d'un grand journal allemand. On y est, on ne comprend plus rien du tout. Les ministres se contredisent. Et je crois que la France est en train de tomber dans une dépression, pas seulement économique et sociale, mais dans une dépression tout court. Parce que le gouvernement, Emmanuel Macron, c'est ce que je lui demande d'ailleurs cette semaine, c'est de donner une perspective. On veut faire des efforts. Les Français ont un civique beaucoup plus que le gouvernement qui souvent veut...
Sauf qu'il y a peut-être aussi les incertitudes quand même de la maladie, quoi, et que même s'il donne de la perspective...
Bien sûr, il y a des certitudes. C'est pour ça que moi je plaide pour qu'il y ait un confinement allégé, s'il ne faut pas parler de déconfinement, mais qu'enfin, on ait une vraie stratégie. Ouais. Une stratégie qui a été gagnante en Allemagne, dans les grandes démocraties.
Quelle stratégie alors ? Les tests.
Le traçage et l'isolement. Pourquoi est-ce qu'on a des hôtels qui sont vides ? Bien, l'isolement, on réquisitionne les hôtels pour mettre les personnes malades.
Il vaut mieux isoler. Laurent Wauquiez veut
isoler les personnes malades que isoler tous les biens portants. Ça me semble être du bon sens.
Oui. Laurent Wauquiez, il faudrait suivre son initiative. Il voudrait tester d'ici Noël toute sa région Rhône-Alpes-Auvergne.
Je suis pas sûr que. Je sais pas. Peut-être que c'est possible à l'échelle d'une région. Oui. En tout cas, avec les tests antigéniques, on peut tester de façon massive pour pouvoir isoler les malades, ça c'est clair. Mais vous savez, moi je me bats parce qu'il y a des tests salivaires. Et mon département, la Vendée, a acheté des machines qui sont produites en Vendée et dont la technologie vient d'une biotechnologie française sur les tests salivaires. Il n'y a toujours pas le tampon administratif, alors que c'est un test qui est sûr à plus de 85%. Encore une fois, la bureaucratie française. Encore une fois,
on dit que c'est un peu moins de 85% quand même. Mais bon,
mais dans les EHPAD...
À propos de la course au vaccin aussi, est-ce que vous êtes favorable à une vaccination obligatoire, vous ?
Moi, je pense que c'est beaucoup trop tôt. D'abord, il faut être sûr quand même qu'on ait des vaccins qui ne présentent pas d'effets secondaires. Il faut être sûr qu'on ait des vaccins qui stoppent bien le processus de contamination. Au bout du bout, moi, j'appelle les Français, je me fais vacciner chaque année contre la grippe. Eh bien, je pense qu'il faudra se faire vacciner. Je pense qu'il faudra des publics prioritaires. Je pense que, par exemple, pour les médecins soignants, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, il faut que ce soit obligatoire. En revanche, je suis très sceptique sur notre capacité à imposer à la population générale une contrainte, parce que comment la fera-t-on respecter ? On ira mettre des amendes ? J'aimerais bien voir comment on va faire.
On parle beaucoup, Bruno Retailleau, de l'expansionnisme turc en ce moment. Emmanuel Macron a haussé le ton ces derniers jours, mais certains estiment qu'on délaisse malgré tout la population arménienne dans le Haut-Karabakh. Quel est votre projet de résolution ? J'ai vu qu'il y en avait un au Sénat qui devrait être discuté dans quelques jours.
Exactement, et c'est une première. Vous savez qu'il y a 20 ans, pratiquement, la France a été, de toutes les nations du monde, la première nation, notre nation française, j'en suis fier, à reconnaître le génocide arménien. Eh bien, sans doute que pour la première fois au Sénat, le 25 novembre prochain, nous allons voter une résolution pour demander, justement, condamner bien sûr les agissements de M. Erdogan et demander aussi une enquête internationale pour les crimes de guerre qui ont été commis là-bas, notamment dans le Haut-Karabakh, mais surtout pour demander la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh. Général de Gaulle, dans un grand discours pendant la guerre à Damas, avait indiqué que dans ce petit pays, tout petit pays de quelques millions de personnes, c'était un peu le berceau de la civilisation du monde, et il avait dit, je le paraphrase, que l'humanité leur devait beaucoup. Eh bien, moi, je suis fier que, bien sûr, mon groupe,
mais ça va pas attiser de nouveau les tensions avec Erdogan.
Les socialistes, les communistes, on s'est associés.
Oui.
Non, attendez.
Dans cette période,
Monsieur Erdogan conduit une politique d'expansionnisme islamiste, néo-ottoman et nationaliste. Oui. Regardez ses agissements en Syrie contre les Kurdes. Oui. Regardez ses agissements aussi en Libye. Regardez ses agissements même au cœur de l'Europe. Monsieur Erdogan, dimanche dernier, était à Chypre, un pays européen pour attiser les braises de la division, de la fracture entre les deux États.
Mais là, justement, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de véritable réponse européenne.
Mais c'est la faiblesse.
Alors, pourquoi ?
Eh bien, parce que y a pas de fermeté, il n'y a pas de volonté. Et moi, je m'honore que le Sénat, encore une fois, c'est une démarche qui ne concerne pas seulement mon propre groupe, je l'ai initié, mais d'autres groupes, notamment à gauche, sont venus dans cette démarche-là pour dire « Stop, Monsieur Erdogan, stop !» On vous condamne maintenant. On engage un bras de fer. Parce qu'il y en a assez de tous ces Munich qu'on n'arrête pas de perdre en France et surtout avec l'Europe. L'Europe, c'est celle de l'impuissance aujourd'hui. Eh bien, heureusement, en France, il va y avoir une voix du Sénat qui va s'élever et qui va dire à M. Erdogan, regardez, on reconnaît vos crimes,
oui.
Arrêtez, stop. Certes, ça n'est qu'une voie,
oui.
Mais ça commence par là, la politique.
Oui, oui. Le futur projet de loi sur le séparatisme arrive début décembre. Le texte a été baptisé projet de loi confortant les principes républicains. Le mot séparatisme a été enlevé, bonne idée ou pas?
Ah, d'abord, ça devait être un texte contre l'islamisme, oui. Ensuite pour la laïcité, maintenant c'est le respect des principes républicains. On voit bien que dans cette valse hésitation du vocabulaire, qu'il y a tout court une incertitude, une hésitation.
Oui.
Alors, ce texte-là, il est décevant. Tout n'est pas mal. Il crée, par exemple, au titre des côtés positifs, il crée un délit de mise en danger de la vie d'autrui à travers la diffusion, par exemple, sur Internet, d'informations qui concernent votre vie professionnelle, votre vie aussi familiale. Il crée aussi une sorte de principe d'opposition pour la polygamie. Opposable, mais je m'étonne d'ailleurs qu'on soit à reconnaître dans une loi, enfin, c'est déjà le cas. En revanche, rien sur l'immigration.
Ouais.
Alors qu'il y a un lien, on le sait, entre l'immigration, même Emmanuel Macron d'ailleurs a dû finir par le reconnaître entre l'immigration et puis l'islamisation.
Oui, mais c'est peut-être pas le même sujet, c'est un autre
sujet. C'est le même sujet. Écoutez, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé quand même? Le monsieur Samuel Paty, il a été décapité par quelqu'un d'origine russe, tchétchène, le Tunisien, celui qui a égorgé trois fidèles à Nice, le tueur de Villeurbanne, avant à Marseille.
Oui, mais ce ne serait pas un grand fourre-tout, du coup, cette loi, alors, si on mettait l'immigration aussi dans
Écoutez, avec Emmanuel Macron, on a toujours les grands discours, on a parfois des textes de loi, mais on n'a rien derrière. Voilà.
Ouais.
Il faut traiter non seulement les conséquences, il faut traiter les causes. Et moi, je regrette qu'il n'y ait rien du tout sur l'immigration. Bien sûr, il faut expulser beaucoup plus pour les étrangers qui se trouvent notamment sur le sol français en situation illégale. Fiché S pour des milliers d'entre eux. Qu'est-ce qu'on fait? On est le premier pays d'Europe,
Les pays puissent les recevoir et acceptent de les recevoir.
Tous les pays d'Europe ont fait. Tous les pays d'Europe ont revu.
Les pays d'origine des personnes.
Ont revu leur stratégie et ont durci leurs conditions, notamment d'immigration, sur le droit d'asile, sur le regroupement familial, sur l'accès aux soins. Nous, non. Je regrette aussi que, par exemple, sur les marqueurs de l'islamisme, comme le voile à l'université, dans les sorties scolaires, il n'y ait rien du tout. Voilà. Je déplore aussi que, par exemple, en matière de fermeture des mosquées, on n'ait pas un dispositif législatif plus opératoire.
Ouais.
Donc, là encore, on est dans l'entre-deux.
Les préférons davantage de pouvoir pour pouvoir, justement, contrôler.
Non, mais
quoi,
tout n'est pas mauvais. Je veux dire qu'il y a de bonnes choses qu'il faudra voter. Mais, très franchement, le bilan, il est maigre. Et on n'a pas l'arsenal législatif, répressif et vraiment déterminé qu'on pouvait espérer avoir, en tout cas.
Un mot aussi, Bruno Retailleau, puisqu'il y a la présidentielle de 2022 également en perspective. Vous réclamez toujours une primaire interne chez les Républicains, mais Christian Jacob semble freiner.
Pourquoi? Comme vous dites, il semble. je réclame...
Qu'est-ce qui va se passer?
Je réclame un processus de choix démocratique, pas seulement pour les militantes, bien sûr pour les militants, mais aussi pour les sympathisants. Voilà. Je pense qu'au XXIe siècle, pour l'élection la plus importante, eh bien, les gens qui nous supportent, qui viennent coller des affiches ou qui votent pour nous, on doit leur donner la parole. On leur a déjà donné la parole. On a fait une erreur de diagnostic. On a dit, oh là là, on a perdu en 2017 à cause des primaires. Non, c'était à cause des affaires.
Mais il faut refaire la même primaire, alors.
Non, je pense... Alors, j'ai fait des propositions pour la modifier, notamment sur deux points. Je pense qu'une primaire en deux tours, ça tend énormément, ça attise les tensions.
Oui.
Et deuxième point, je pense qu'on pourrait avoir un statut du sympathisant pour qu'on puisse faire en sorte que chacun ne puisse pas voter, quelle que soit leur conviction. Parce qu'en 2016, il suffisait de signer une charte.
Donc il faudrait signer quelque chose de différent.
Une proposition. Il faudrait, par exemple, s'engager avec une cotisation d'un statut de sympathisant qui ne serait pas celui du militant. Vous ne seriez pas encarté, mais vous accepteriez, par exemple, de figurer sur un fichier. Voilà. Que ce soit un peu plus engageant.
Élection en un tour, alors.
Un tour, alors il peut y avoir un tour, il peut y avoir un vote de type canadien préférentiel pour que ce soit un peu moins brutal. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, je suis ouvert. Simplement, ne remettons pas en cause ce principe d'aller vers les gens et de leur demander de prendre la parole
est-ce que vous croyez
sur un choix qui engage leur avenir.
Christian Jacob, il freine parce qu'il attend Nicolas Sarkozy?
Non, mais je pense que... Non, mais
c'est un recours Nicolas Sarkozy, encore pour la droite.
Je sais que pour beaucoup de nos militants, c'était une expérience traumatisante. Donc c'est normal que Christian Jacob, je veux dire, puisse en tenir compte. Simplement, je dis à Christian Jacob qu'on a perdu quand même avec la candidature qu'on nous promettait de François Baroin pratiquement un an. Et là, on va encore perdre un an. Et tant qu'on n'incarnera rien du tout, ben voilà, on va laisser M. Macron et Mme Le Pen caracoler en tête des sondages.
Et Nicolas Sarkozy?
Ben écoutez,
il a un rôle à jouer encore.
Mais Nicolas Sarkozy a ce rôle tutélaire. Je ne crois pas un instant à son retour Pourquoi ? Parce que je le crois à lui. Il le programme, il le proclame à chaque interview. Il dit, non, mon objet, c'est plus la politique.
Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Bruno Retailleau.
Oui, le professeur Raoult est poursuivi par l'ordre des médecins, notamment par son traitement sur la chloroquine. Il est soupçonné de charlatanisme, ce qui est quand même assez énorme. Il affirme, lui, être victime d'un complot politique et médical. Est-ce que vous allez dans le sens de cette hypothèse ?
Non, mais moi, je ne suis pas du tout un complotiste. Moi, j'ai été un des
premiers.
Vous
l'avez soutenu.
En mars.
Ah oui, vous l'avez soutenu.
Exactement, en mars, à le soutenir. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on était dans une épidémie qui faisait des morts, des milliers de morts. Nous n'avions pas de vaccin, nous n'avions pas de traitement. Et l'hydroxychloroquine, des grands médecins m'avaient indiqué, c'est pas moi, Bruno Retailleau, qui était sorti subitement. Les grands médecins m'avaient indiqué, écoute, on en connaît depuis des dizaines d'années, on l'a administré à des centaines de millions de personnes, on connaît très très bien ce médicament, les droits sont tombés dans le domaine public et les contre-indications, on les connaît. Donc, on n'a pas le droit de refuser justement une piste qui peut être intéressante. Le débat n'est pas clos. Franchement, faire de...
Il y a un acharnement contre Raoult.
Monsieur Raoult, le professeur Raoult, un charlatan, alors qu'il est reconnu sur la scène mondiale comme un grand scientifique, sans doute qu'il est particulier, sans doute qu'il a des allures de barre de sel, sans doute qu'il n'a pas la langue dans sa poche, sans doute se trompe-t-il parce que tout le monde se trompe. Écoutez, vous vous souvenez les scientifiques comment ils nous ont trompés ? Ils nous disaient d'ailleurs il y a quelques mois que le masque ça servait à rien du tout. Donc franchement, les diafoirus à la Molière, il y en a des tonnes. Vous vous souvenez de cette étude dans l'Ancet qu'on décrivait justement pour mettre en prêche les hypothèses du professeur Raoult qui s'est, elle aussi, retrouvée en tout cas, ça a été une tartufferie.
Ouais.
Voilà. Donc, on alimente aussi le complotisme. Cette espèce de parole scientifique qui a été totalement dispersée, qui a été totalement contradictoire, a induit chez les gens un doute formidable. Et ce doute, je vais vous dire, ce qui est grave, c'est qu'au moment où il va falloir vacciner les gens en nombre, en masse, eh bien, ce doute va peser. Ce sera une épée de Damoclès sur la capacité des Français à avoir confiance et à accepter de se faire vacciner. Or si, et je leur dis, il faut se faire vacciner parce qu'on se protège soi-même, mais surtout, on protège les autres.
Merci Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, sénateur de Vendée, était l'invité ce matin de Sud Radio.
Et dans un instant, le journal de 8h, à tout de suite.